13h05, bienvenue à cette deuxième heure d'émission. C'est Nathalie Normandeau. Ventilation avant d'aller à la grippe, parce que je vais vous parler un peu de grippe. Il y a un auditeur qui nous écrit sur le 98-98.5. En tant qu'ingénieur en électromécanique, je peux confirmer qu'en ventilation, en matière de ventilation, tout le réseau d'écoles de la province est désuet et inefficace. Il y a un auditeur un peu plus tôt qui nous a dit « L'Ontario, la France débute un grand chantier pour ce qui est de la rénovation de nos systèmes de ventilation. » Alors, je ne sais pas si d'ici quelques jours, la semaine prochaine, le gouvernement, le ministère d'Éducation proposera des solutions concrètes pour améliorer la ventilation dans les salles de classe. La question est lancée. Un article ce matin paru dans le Journal de Montréal a retenu mon attention. Aucun cas de grippe n'aurait été recensé cette année. On dit que c'est du jamais vu en 25 ans. Docteur Richard Marchand est avec nous, microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, Docteur Marchand.
Bonjour, Mme Normandeau.
On n'est pas dans le domaine des fausses nouvelles, là, avec...
Non. Non, non. Il y a 14 laboratoires qui servent de sentinelle de dépistage. Il y a eu un cas d'influenza, mais c'est un voyageur qui revenait d'ailleurs. Donc, il y a déjà 2 ou 3 mois. Donc, effectivement, il n'y a pratiquement pas de grippe à l'échelle de la planète à cause du confinement qu'on applique un peu partout. Ça montre quand même qu'il y a ce confinement-là et cette distanciation-là un effet sur la distribution des virus respiratoires.
Parce qu'une référence là à l'Institut national de santé publique du Québec, on dit qu'à pareille date, l'an dernier, il y avait 2000 cas de grippe ou d'influenza. Bon, vous dites c'est grâce au confinement qu'on n'a pas de cas de grippe, mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a un lien entre l'absence de grippe cette année et l'apparition de la COVID? Est-ce qu'il y aurait une espèce de forme de compétition entre les virus?
C'est possible, mais j'en doute. Je pense que c'est beaucoup plus l'ensemble des mesures de distanciation qu'on fait, parce que la grippe, là, c'est quand même un virus qui est relativement facilement transmissible, mais ça prend des gouttelettes, là, des plus grosses gouttelettes. Et ça prend, par exemple, 3000 particules virales pour infecter quelqu'un. Donc, 3000 virus là sur une gouttelette, ça prend une assez grosse gouttelette. Donc, ça prend une proximité entre les individus. Et dès qu'on met un minimum de distanciation entre les gens et en plus un masque, bien, c'est clair que la grippe va être supprimée beaucoup plus rapidement dans sa transmission qu'un virus qui, lui, a une capacité de transmission respiratoire, par exemple. Et là, bien, ça nous ramène un peu à la ventilation dont vous discutiez il y a quelques minutes, parce que déjà en 2003, quand il y avait eu l'enquête Campbell en Ontario sur ce qui s'était passé, par exemple, à Toronto, on avait soulevé l'hypothèse que la transmission de la COVID, du virus de l'époque, du coronavirus, était aérienne aussi. Ce qui fait que c'est pas nouveau qu'on discute de ça, des coronavirus et de la transmission aérienne.
Oui, effectivement. Mais je veux revenir à l'impact des mesures sanitaires sur la grippe. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que, bon, la COVID, on fait nos apprentissages avec la COVID. On apprend effectivement à garder notre 2 mètres de distance, à porter son masque. Mais est-ce que il faudrait, dans le futur, lorsqu'il y a des épisodes de grippe, en passant les épisodes d'influenza dans l'année, c'est quoi? C'est printemps, automne, généralement?
Généralement, ça commence avec quelque part le mois d'octobre et ça va se maintenir là de façon continue jusqu'en mai, fin mai. Et pour une moyenne, là, les bonnes années, de 350 à 500 morts de la grippe. Les mauvaises années, ça peut aller jusqu'à 2000. Oui.
Est-ce que, comme spécialiste, vous recommandez le port du masque lorsqu'il y a des épisodes d'influenza? Parce que c'est pas dans notre coutume, je veux dire ça comme ça, dans nos comportements. Sur le plan culturel, on voit évidemment les Asiatiques, là, on a tous cette image-là en tête, ils portent le masque très, très souvent. Bon, il y a la pollution de l'air et tout ça. Mais est-ce qu'il serait sage dans le futur, parce qu'on pourrait dire que c'est ce qu'on a appris de la COVID, lors des périodes d'influenza, de porter toujours son masque et de garder ses distances?
Bien, la réponse est oui. D'ailleurs, les Asiatiques l'ont appris un peu par l'obligation des faits, là, parce qu'ils sont très nombreux sur des petites surfaces. Donc, la proximité favorise nettement la distribution d'un virus comme celui de la grippe. Donc, ils ont développé cette habitude-là depuis très longtemps et c'est passé dans leurs mœurs. Nous, ici, c'est pas dans nos mœurs, ça c'est sûr. Un, parce que on était beaucoup plus distanciés sur des plus grandes surfaces avec beaucoup moins de monde. Ceci dit, vous voyez à quel point déjà, même dans un contexte de pandémie, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui contestent le masque, qui contestent la distanciation.
Oui.
Fait que, effectivement, c'est pas facile à faire avaler à tout le monde cette obligation-là.
Ouais, il y a un auditeur qui nous écrit, on fait quoi de notre système immunitaire si on porte toujours le masque? C'est vrai, c'est un bon argument, mais en même temps, ça nous protège contre la contagion.
Ça nous protège contre la contagion, ça protège les autres aussi de la contagion, parce que on veut pas, on tousse tous, à un moment donné, on a le nez qui pique, puis on peut avoir un éternuement. Donc, c'est sûr que le fait de porter des masques diminue, mais à l'inverse, le fait de porter des masques a aussi un problème. Hein. Vous respirez vos propres microbes comme tels, vous pouvez respirer des particules de ces masques-là, parce que c'est des tissus, ce qu'on appelle là, c'est du polyéthylène non filé qui est comprimé et qui émet des petites particules. Bien, c'est des petites particules que vous inspirez. Il y a des gens qui font beaucoup d'asthme à cause de ces masques-là et de ces petites particules-là. Il y a un avantage à faire, puis il y a un avantage à ne pas faire.
Ouais. Hein,
il faut toujours peser les deux risques et de choisir celui qui est le moindre.
On appelle ça la balance des inconvénients, Dr. Marchand. Le gouvernement nous parle beaucoup de ça. Peut-être une dernière question, parce que ce matin, on apprend que le vaccin Pfizer peut nous protéger, serait efficace contre les variants. Il y a déjà deux variants qui sont connus, là, un qui vient du Royaume-Uni et un autre qui vient d'Afrique du Sud. C'est une bonne nouvelle, ça, j'imagine, pour vous comme expert en la matière?
C'est une très bonne nouvelle, mais la notion de variant là, était connue. Par exemple, juste en Chine, dans ces trois premiers mois, il y en a eu 19. Fait que la probabilité qu'il y ait des variants, même déjà au Québec, qui soient nos propres variants est déjà là. Et à l'échelle de la planète, la probabilité qu'il y ait des variants, même si on empêchait complètement les transferts d'un pays à l'autre, là, que des variants apparaissent à tous les endroits où il y a déjà des cas de COVID, est pas négligeable avec ce virus-là. Donc, on revient toujours avec la même notion là de contrôle, de distanciation, de contrôle et de contrôle aussi des aérosols.
Bien, merci beaucoup, Dr. Richard Marchand. On le rappelle, aucun cas de grippe là, officiellement recensé cette année au Québec. Une première depuis 25 ans quand même. Faisons la vague, comme on dit. Au moins, on a à lutter contre la COVID, mais on a une petite pause pour ce qui est de l'influenza. Merci beaucoup, Dr. Richard Marchand. Vous êtes microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Une belle fin de journée.
Bienvenue.
Merci, au revoir. Luc Lavoie.
Oui.
Bon, écoute, on parle de grippe. En passant, je vais te poser une question, tu sais, parce que moi, j'ai pris une décision, sachant l'efficacité qu'a le masque, j'ai pris la décision de conserver le masque dans le futur, lorsqu'il y aura, entre autres, des cas, des épisodes d'influenza.
Bien, ce que tu vas faire n'est pas unique au monde, hein, en Asie en particulier, certainement au Japon, où j'ai été plusieurs fois. Les gens en hiver, à la saison grippale, si on peut appeler ça ainsi, portent le masque, naturellement. On en voit beaucoup, 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 je dirais, quand t'es à Tokyo, là, au mois de janvier, février, là, 8-9 personnes sur 10 portent un masque quand ils sont dans des lieux publics ou dans des lieux, enfin, où il y a des gens autour d'eux.
Mais moi, je suis quand même, s'il faut vivre la COVID, lorsqu'on prend un peu de recul, pour se rendre compte que, écoute, on se transmettait nos microbes à la vitesse grand V, là. Tu sais, quand t'as même un simple rhume, là, écoute, tu tousses, t'éternues, puis tu sais, sans t'en rendre compte, tu contamines ton environnement. Moi, en tout cas, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises, là. Je vais garder mon masque. Je sais que ça va faire réagir des auditeurs parce qu'il y en a qui sont à bout en bon français de porter leur masque, mais moi.
Mais si enfin on va souper ensemble, Nathalie, là,
oui.
Vas-tu le garder?
C'est difficile de porter le masque avec toi, on parle tellement. Et je veux te rassurer sur la progression de la vaccination au Québec.
Oui, ça va vraiment bien ce matin.
Ça va vraiment bien. 13 971 personnes en date, bien, faite d'hier. Donc, juste un comparatif, Luc, là, avant-hier, le 6 janvier, 9 960 personnes. Le 5 janvier, 6 221 personnes. Puis aujourd'hui, hier, en fait, là, 13 971 personnes vaccinées.
Donc, on a gueulé beaucoup, moi, certainement,
oui.
Au début de la semaine.
Oui.
Peut-être qu'on a été entendu, peut-être que non, peut-être qu'on avait tort. Mais je suis obligé de reconnaître que ça accélère vraiment beaucoup. Puis quand je fais des comparaisons avec les autres provinces, ça va plutôt bien au Québec. Et j'avoue aussi que M. Paré, là, celui qui est en charge de l'opération, que tu as reçu hier à ton émission, je pense que j'ai participé à l'entrevue.
Oui.
Il est assez rassurant, ce gars-là, parce que il essaie pas de... tu sais, il prend pas le, comment dire, la manière Arruda de trouver des fleurs, puis des noms, tu sais, il répond à la question très, très simple, combien, puis à quel rythme, puis tout ça. Il était extrêmement rassurant, et je vois les chiffres aujourd'hui, puis je me dis, enfin, on est en train d'atteindre une vitesse de croisière maintenant qu'on nous amène des vaccins.
Puisqu'on est entendu peut-être un petit peu, ce matin, à la conférence de presse de Jean-François Roberge, on a appris que les enseignants ne seraient pas vaccinés. Rapidement. C'est-à-dire, on nous dit qu'on va les, on va les vacciner, on va devancer la période de vaccination pour eux au printemps. Mais le problème, c'est que là, l'école démarre la semaine prochaine.
Si on avait j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Vraiment beaucoup de difficultés. Parce que, bon, les enfants, on le sait, peuvent être porteurs, mais avoir aucun symptôme. C'est généralement le cas. Là. C'est pas 100% du temps le cas, mais dans en haut de 95% des cas.
Oui.
Ça veut dire que les professeurs l'attrapent.
Exactement.
Les enfants... Oui. Et ça, je trouve ça extrêmement déplorable. Je pense qu'il aurait dû mettre non seulement les professeurs, mais les gens qui travaillent dans les garderies, dans les CPE, tout ça, ils devraient tous les mettre sur une liste prioritaire. La liste prioritaire qui est les résidents des CHSLD, ensuite les travailleurs de la santé... Ben, je pense que juste là, juste après les travailleurs de la santé, mais d'après moi, ce sont les professeurs, les gens qui travaillent en garderie, et je comprends pas toujours leur... Je comprends, après ça, ils vont s'en aller dans un groupe d'âge. Bon, d'accord, là, ça me sert bien.
C'est vrai. Non, mais si on avait à formuler une demande aujourd'hui, toi et moi, là, OK, on pourrait effectivement recommander fortement au gouvernement d'appuyer encore davantage sur l'accélérateur pour ce qui est de la protection qu'on doit accorder, qu'on doit donner aux enseignants avec la vaccination. Mais je veux t'entendre sur la partie de ping-pong qui semble se jouer entre Québec et les provinces, Québec et Ottawa, Ottawa, les provinces, Ottawa et Québec, sur la vaccination. T'as vu, là? Bon, Justin Trudeau qui dit aux provinces « vacciner plus », François Legault qui dit à Justin Trudeau, ben là, on a besoin des doses. Après ça, t'as la réplique de Pablo Rodriguez qui dit, ben, au fédéral, chez les libéraux, sortez vos vaccins du congélateur. Là, t'as Yves-François Blanchet ce matin, le chef du Bloc, qui s'en mêle puis qui dit à Ottawa, ben là, grouillez-vous, envoyez vaccins. Tu penses quoi de ça, de cette partie de ping-pong entre Québec et Ottawa sur les vaccins?
Je pense qu'on n'a certainement pas besoin de ça à l'heure actuelle. En fait, c'est la partie de la politique que les gens aiment le moins. Cette espèce de petite chicane, je te jure, je le connais pas personnellement, oui, je l'ai déjà rencontré, mais Justin Trudeau, il doit vouloir en rentrer des vaccins, il doit mettre la pression partout. Legault, il veut des vaccins parce qu'il met la pression partout. Ça fait partie de la dynamique, mais quand ça prend une dimension politique, Ottawa nous en envoie pas assez, blablabla. Écoute, moi, là, je trouve que c'est tellement niaiseux de s'embarquer là-dedans, c'est tellement épais, là. Je veux dire... Je pense qu'on a tous deviné que François Legault n'a pas d'atome crochu avec Justin Trudeau.
Ah, mon Dieu, ça, c'est effectivement, c'est bien dit. Mais ils se sont parlé, je pense, hein, hier
ou
avant-hier.
Ils se sont parlé hier, puis il paraît que ça s'est bien passé. Alors, dans des circonstances comme celle-là, on n'est pas là pour se demander, ils s'aiment-tu pas, ils sont-tu d'accord idéologiquement? Non, toutes les forces vives doivent être... concentré sur comment on va vaincre ça, puis il y a juste une méthode, c'est le vaccin. Le chialage entre un et l'autre, là, non, on n'est pas pour ça, là. On n'a pas de temps à perdre avec ça.
Tu parles des forces vives, tu parles comme un politicien, ma foi, écoute, les forces vives du
milieu. À force de vous fréquenter, ça a fini par déteindre sur moi, mais si jamais, Nathalie, tu me dis que je parle comme un bureaucrate, là, ça y est, je prends ma retraite.
Ah non, mais ça m'étonnerait beaucoup. D'ailleurs, tu vas nous parler un petit peu plus tard dans l'émission de ce qui se passe aux États-Unis, hein, parce que ça, il y a énormément de choses à dire. Tu vois, on parle de vaccination, les auditeurs disent, donnez donc les vaccins aux professeurs plutôt qu'aux détenus, parce qu'il était question de ça cette semaine.
C'est de la démagogie.
C'est sûr. Sauf qu'à partir du moment où Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, déclare que les enseignants sont des travailleurs essentiels, il faut que les bottines suivent les babines en quelque part. Là,
ben, je trouve ça étrange. En fait, je trouve très, très... tout ce qui vient de la santé publique, là, des fois, je commence à me gratter la tête un peu. T'sais, je les regarde aller avec la ventilation, là, puis je me rappelle des masques. Je peux pas les oublier, les masques. Mmh. On est en avril. C'est pas bon mettre les masques parce que vous pourriez vous auto-infecter. Puis on ne sait pas comment les porter, puis c'est pas une bonne idée, puis ça donne un faux sentiment de sécurité, alors qu'à l'heure actuelle, tous les scientifiques du monde disent que la meilleure mesure qu'on a prise à l'heure actuelle, c'est le masque. Alors, tu sais, quand je les entends arriver, moi, mais là, on a fait un test dans 300 salles de classe, puis tu as pas blablabla, puis la santé publique d'ici, puis la santé... Des fois, je commence à me poser des sérieuses questions sur tout ça.
Luc, on se reparle un peu plus tard dans l'émission. Après la pause, je sais pas si tu as entendu parler de ce recours collectif, cette demande d'action collective de 600 millions de dollars déposée contre la société montréalaise MindGeek, à qui appartient le site Pornhub, qui a fait énormément jaser au cours des dernières semaines. C'est dans quelques instants.